fait. Donc ravi de vous accueillir Tanguy une nouvelle fois pour cette conférence fragilité humaine, fin de vie en particulier, quels enjeux dans le cadre du cycle 3 de l'IHEMR, hein, questions contemporaines, questions et enjeux contemporains. Je vous présente rapidement, mais ce sera très, très imparfait et insuffisant. Vous êtes spécialisé depuis très longtemps sur ces questions de fin de vie, avec un doctorat en sociologie, une thèse à l'EHESS.
Le PHE.
Le PHE, pardon, excusez-moi.
C'est presque pareil.
Excusez-moi, oui, pas, oui. Et vous êtes d'ailleurs membre du groupe du GSRL,
oui.
Du fameux GSRL au CNRS, le PHE, avec un certain nombre d'intervenants qui, évidemment, viennent de...
J'imagine.
Ils viennent de ce groupe.
Je vois.
Voilà. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui nous a attiré beaucoup, vous, dans votre parcours, votre profil, et ce pourquoi on vous a proposé, il y a maintenant 4 ans, je crois, de venir, c'est que vous êtes à la fois sociologue, c'est vrai, avec un parcours scientifique incontestable, mais également, vous êtes un homme de terrain. Et vous êtes un praticien de l'accompagnement en fin de vie. Et il nous semblait, cette double approche, le fait de marcher sur ses deux jambes nous semblait la plus équilibrée pour parler de ce sujet qui peut être délicat. Tout à l'heure, avant que l'on commence, vous évoquiez le fait qu'actuellement vous étiez très pris, puisque, et on vous remercie d'autant plus de venir, puisqu'il y avait les états généraux de la bioéthique. Donc on est vraiment sur des sujets de société, on est au cœur de ces questions-là. Vous m'avez appris d'ailleurs que vous le redirez probablement que le président Macron a finalement écarté ce sujet des débats, la question de fin de vie, d'euthanasie, des états généraux. Vous êtes consulté régulièrement par le Comité national consultatif d'éthique. Peut-être qu'un jour vous y rentrerez d'ailleurs.
Je ne serai pas certain. Je ne suis pas certain, puisque ça me demande comme investissement derrière.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens qui y vont s'engagent, heureusement.
Ouais. Oui, heureusement.
Il faut être disponible.
Il faut être retraité, non ?
J'ai le désavantage d'être aussi chef d'entreprise, donc
c'est ça.
faut que ça tourne.
Il faut que ça tourne quand même.
Quand même, oui.
Et vous avez été également, vous êtes également très sollicité actuellement donc, par les députés, les jeunes députés, députés récents, pour toutes ces questions. Donc, voilà, vous êtes un homme de référence sur ces sujets. Voilà, c'est aussi le bénéfice d'années de travail et je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse.
Comme d'habitude, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on rentre le plus vite possible dans un échange, parce que c'est là où les informations sont les plus appropriées, les plus ajustées par rapport à vos besoins. Donc, je vais essayer d'être rapide pour dire que pourquoi est-ce que déjà dans le cadre de l'IHEMR je suis heureux d'intervenir, c'est parce que dès l'origine j'ai senti par ma pratique de l'accompagnement bénévole, ça fait 17 ans que je fais du bénévolat en soins palliatifs à domicile, puis après en unité de soins palliatifs, j'ai senti qu'il y avait au cœur de cet accompagnement une dimension spirituelle qui ne pouvait pas se limiter à la dimension religieuse. C'est-à-dire que la manière dont on pense l'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui, qui devient un sujet majeur, central dans nos sociétés, reconnaît théoriquement une place au questionnement spirituel. Il y a des fondamentaux théoriques autour de la notion de souffrance globale, qui est le corollaire de la notion de santé vue par l'Organisation mondiale de la santé, donc un état de bien-être complet. Et autour de la fin de vie, on conçoit aisément que les personnes puissent être confrontées à une souffrance qu'on qualifie de globale, dont il y a des aspects physiques, des aspects psychologiques, des aspects sociaux et des aspects spirituels. Mais la définition qu'on va très vite en pratique donner à cette dimension spirituelle, c'est les questionnements religieux. Et donc on va réserver la dimension spirituelle à l'intervention d'aumôniers. Or, on constate, y compris même chez les personnes âgées, qui sont issues d'une culture qui... et peut-être plus enraciné dans la société d'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, que le questionnement religieux est finalement pas si explicite que ça autour de la fin de vie, mais qu'il y a des questions sur le sens, et il faudra encore essayer d'approfondir ce qu'on entend par le sens, qui sont, elles, décisives autour de la fin de vie. Et ces questions-là, on ne sait pas les accompagner, parce qu'on a tendance à considérer que voilà, il y a le périmètre de la laïcité qui est toujours un peu discuté, et on pense épuiser ses souffrances, pardonnez-moi l'expression, mais ou étancher ses souffrances par une offre d'accompagnement de nature religieuse. Donc il y a plein de gens qui passent à travers les mailles de la raquette, si j'ose dire, d'autant plus que les quêtes spirituelles, elles ont beaucoup évolué depuis 20, 30 ans, et pas simplement chez les tout jeunes. Donc il y a quelque chose qui est en inadéquation entre une mission de santé publique qui prétend accompagner les gens dans la globalité de leur existence, particulièrement au moment de la fin de vie, et les moyens qu'on se donne, théoriques et après pratiques, pour répondre à ces besoins-là. Donc c'est ça que moi j'ai repéré assez vite en tant que bénévole. Je me suis dit, mais comment je fais, moi, bénévole d'une association laïque, pour répondre à un questionnement qui pourrait être d'ordre spirituel face à moi. Et comment est-ce que je fais pour identifier que c'est un questionnement spirituel? Si on me demande si je crois à une vie après la mort, ou est-ce que le péché ceci, ou est-ce que les rituels cela, c'est clairement explicitement religieux. Donc là, on peut mobiliser les gens qui sont compétents. Mais si c'est quelque chose de plus vague, si c'est une demande qui n'est pas adressée qu'à un spécialiste, mais qui est adressée par exemple, comme c'est souvent le cas, à une aide-soignante, à un médecin, à un psychologue, à un bénévole. Comment on fait pour ne pas commettre ce que j'appellerais un déni d'accompagnement? C'est-à-dire dire, bon, excusez-moi, j'ai pas le droit de parler de ces choses-là avec vous. Donc ça m'a amené à comprendre qu'il y a aujourd'hui quelque chose de tiède au regard de la notion de laïcité, que j'appelle, de manière un peu provocatrice, une laïcité PPCM. C'est-à-dire la laïcité du plus petit comme un multiple. Une laïcité qui serait resserrée sur ce qui ne fait pas débat, ce qui serait nos valeurs républicaines partagées. Sauf qu'autour de la fin de vie, on voit que le particulier de chaque individu s'exprime. Et est-ce qu'on considère que ce particulier-là n'a pas sa place dans l'espace public et dans l'espace laïque, qu'est l'hôpital, ou aujourd'hui, enfin l'institution, pas seulement l'hôpital, où 70% des gens finissent leur vie et décèdent. Donc on a une vraie tension entre est-ce que notre système aujourd'hui est adapté aux besoins des gens, est-ce que la question de la fin de vie ne nous invite pas à repenser la question de la laïcité de manière un peu moins frileuse, un peu plus ouverte à un certain type de dialogue, mais pas n'importe comment. Donc mon travail a consisté à essayer de repérer ce qu'on devait, ce qu'on pouvait entendre par la notion spirituelle aujourd'hui. Et c'est là où c'est troublant, c'est que à l'hôpital, on pourrait transposer le débat à l'école, comme ça a été le terrain qui a préludé à la commission Stasi en 2004. On voit bien que la République est interpellée autour des questions de spiritualité ou de pratiques religieuses dans son espace public. Eh bien, l'hôpital, c'est quand même le lieu, c'est un lieu totalement singulier, puisque c'est à la fois le lieu de la puissance publique, mais c'est aussi le lieu de l'intime. Et l'intime, dans ce qu'il a de plus exigeant, de plus décapé, parce que c'est aussi l'intime de la fin de vie. Et donc, si on dit à l'hôpital public, votre corps nous intéresse, mais votre esprit, vous êtes gentil, gardez-le pour vous, est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est non conforme à l'idée qu'on se fait du soin? Et donc ça veut dire qu'il faut quand même imaginer qu'il y ait des règles d'accompagnement, d'encadrement, parce qu'on est à l'hôpital et que c'est un lieu qui doit être sécurisé. Mais pas plus tard qu'avant-hier, j'étais au Mureau, qui est un lieu où à l'hôpital il y a 40 nationalités, 25 langues qui sont parlées, et ça pose la question évidemment des rites cultuels, mais aussi des rites culturels. Et donc on voit que l'hôpital est invité à être pensé comme un lieu de la présence républicaine, dans sa diversité. Si on regarde les services d'urgence, aujourd'hui, c'est aussi une réflexion qui est extrêmement présente. Donc ça, c'est pour situer le départ de ma réflexion, en disant, en tant que citoyen, on a une responsabilité. Dans un moment, alors là, je reprends peut-être un volet plus sociologique, dans un moment d'individualisme, de matérialisme, de grande sécularisation, on a peut-être une responsabilité pour nourrir une réflexion sur une république qui ne serait pas que sécularisée au sens de cette laïcité PPCM, où toutes les choses qui font sens mais qui pourraient faire un peu frottement seraient remisée à la dimension strictement privée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça s'enracine dans une pratique, hein, comme Xavier l'a dit. Donc, je vois bien à quel point les professionnels sont eux-mêmes embarrassés dans leur pratique. Je vois bien à quel point ils manquent de références. Pourquoi ? Parce que les professionnels de santé, mais on pourrait étendre ça à plein d'autres métiers, sont eux-mêmes le fruit de réflexions, de pratiques, de croyances. Et c'est une forme aussi de souffrance quand ils sont engagés dans le soin que de leur dire « Non, mais ce que vous avez comme valeur, ça vous regarde, mais vous n'avez pas le droit de les manifester, ce qui est l'application stricte de la loi aujourd'hui. » Sauf que on voit bien que ça contribue directement au sens qu'ils donnent à leur action professionnelle. Et donc un soignant n'est pas simplement quelqu'un qui va mettre en place, en œuvre, une technique soignante. C'est quelqu'un pour qui le soin a du sens. Et donc on ne peut pas, y a pas de posture universelle républicaine sur le sens du soin, c'est ça. On voit qu'on est sollicité sur les valeurs que chacun porte en lui, et on peut s'étonner qu'aujourd'hui on valide l'idée que quand une infirmière finit son service, elle est remplacée par une infirmière qui va faire exactement la même chose. Donc elle est remplacée à l'identique. Sauf que la pratique, c'est pas ça du tout, puisque le soin, c'est, ou la relation soignante, bienveillante, c'est la rencontre avec une personne. Et donc, considérer que réduire une infirmière, par exemple, à sa fonction soignante et nier sa personnalité, son système de valeurs derrière, c'est la réduire à une compétence, la réduire à une technique, la réduire à une mission peut-être de service public. Mais c'est là aussi passer à côté de la moitié de ce que le soin peut produire. Donc on est aussi dans un moment où, pour des raisons scientifiques, on néglige totalement tous les travaux autour de l'effet placebo, qui ne disent pas simplement que les produits, que les principes non actifs sont aussi agissants. L'effet placebo dit que c'est la relation qui est agissante. Et donc réfléchir aux soins aujourd'hui, c'est nécessairement revenir à une réflexion sur la relation. Donc sur la personnalité du soignant, du soigné, de la famille et de manière plus systémique de tous ceux qui concourent à faire en sorte que les gens trouvent de la qualité de vie. Donc ça, c'est, il y a une réflexion sur les représentations religieuses, la vie spirituelle de ceux qui souffrent, une réflexion sur les représentations religieuses, la vie spirituelle de ceux qui soignent, une réflexion sur l'hôpital comme étant ce lieu hybride où en droit ça reste une extension du domicile, mais en pratique et même aussi en droit c'est aussi un lieu public soumis à une obligation de neutralité. J'étais au bureau donc avant-hier, j'étais la semaine dernière à Saint-Denis, c'est la même chose. Et donc on voit que le multiculturalisme et le multiculturalisme, si j'ose dire, en France, nous oblige à reconsidérer toutes ces productions symboliques de sens comme étant des éléments de dialogue social. Autre chose, puisque Xavier l'évoquait, et puis après on va ouvrir un grand espace de discussion, hein, on voit que, je l'ai dit en introduction, la fin de vie, c'est par définition un moment qui, depuis la nuit des temps, en anthropologie comme en sociologie, interroge non seulement les personnes, mais les sociétés dans leur rapport aux croyances et aux rites. Beaucoup plus que la naissance. C'est sûr qu'à la naissance, il y a parfois des rites qui sont mis en œuvre, mais pas instantanément d'ailleurs. On peut pratiquer des rites de circoncision ou de baptême, par exemple, mais ça n'est pas le premier des éléments qu'on va mettre en pratique. On va d'abord s'assurer de la santé physique du nouveau-né. Et puis très vite, le sens de cette naissance va se diluer dans l'action sociale, l'implication sociale. Alors que quand on regarde du côté de la fin de vie pose par définition la question du sens, et pas simplement de la vie en tant que projet, ça c'est du côté de la naissance, mais de la vie en tant que bilan. Et donc derrière, eh bien, il y a une nécessité de tenir compte de ces productions de sens, et ça depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de société, on n'a pas d'exemple de société qui se soit construite sans une référence fondamentale à une interrogation sur le sens de la vie autour de la mort, et parfois le sens de la vie après la mort. Donc, du coup, la mort est un sujet qui va, plus qu'aucun autre, interroger la place des croyances. Et ce n'est pas innocent si aujourd'hui, les thématiques autour de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté bousculent bien au-delà des clivages religieux. Parce que derrière, ce n'est pas une question de lumière contre religion. C'est une question de conviction, de valeur, de croyance personnelle, et tout ça, ça fait partie du tissu spirituel de nos sociétés. Donc on pourra aborder effectivement la question de l'euthanasie ou du suicide, qui sont des questions très en débat. Et puis il y a une autre question que j'aimerais qu'on puisse aborder aussi, c'est la question du deuil, qui est vraiment, alors aujourd'hui, le parent pauvre, le négligé, sinon le refoulé de nos sociétés. Il y a encore 40 ans, le deuil était visible, et la fin de vie était refoulée. Et c'est parce que les soins palliatifs ont surgi, il y a une quarantaine d'années, que la fin de vie a pu passer d'un espace de refoulement à un espace de visibilité sociale, et même de dialogue, de réflexion sociale et sociétale. Et dans le même temps, c'est le deuil qui a été totalement escamoté. Or, ce deuil, c'est aussi un rapport à l'irrationnel, à l'immatériel et au sens d'une vie qui s'est éteinte et d'une autre vie qui doit continuer à trouver de bonnes raisons de vivre. Donc là aussi, dans le deuil, qui était vraiment le sujet le plus escamoté à mon point de vue, parce que voilà, j'ai fait en 2016, on expliquerait peut-être si on va sur ce sujet, la première étude avec le Credox sur une première étude d'envergure sur le deuil et les manifestations du deuil, les symptômes, les ressources. Et quand j'ai été interrogé les bases de données de l'INSEE ou de l'adresse, il n'y a aucune étude, aucun article sur le deuil. Zéro. Donc est-ce qu'il est normal que le ministère de la Santé n'ait jamais souhaité documenter cette question? Elle ne l'est qu'à travers le prisme de quelques travaux de psychologues qui se sont intéressés au sujet, qui ont publié. Mais il n'y a pas d'étude d'envergure, il n'y a aucune étude épidémiologique, par exemple, sur la question du deuil. Voilà. Donc voilà un petit peu comment, autour de la question de la fin de vie, je trouve on peut travailler avec une certaine intensité, une certaine acuité, la question de la place des religions et de la place des questionnements spirituels dans notre société aujourd'hui. Je vous ai lancé quelques idées, maintenant je veux bien que vous les saisissiez.
Moi j'avais deux questions. La première, c'est comment vous définissez, ou dans quelle limite vous définissez ce que vous appelez la fin de vie symbolique. Et la deuxième, est-ce que vous faites un rapport, mais une analyse comparative, mais au moins une relation entre, on va dire, le suicide dit assisté et dans la fin de vie, c'est-à-dire naturelle, et la fin de vie anticipée de certains, dans lequel il peut y avoir des corrélations.
Oui. C'est une première question sur la fin de vie symbolique, elle est déterminante parce qu'aujourd'hui on voudrait réduire la fin de vie à un processus maîtrisable, rationnel, à une forme de procédure, y compris médicale, et donc on voudrait réduire la fin de vie au tout dernier moment de la fin de la vie. Donc essentiellement, ça nous amène sur des productions juridiques où on parle de pronostic vital engagé à court terme, bon. Et puis au niveau clinique, on va parler des signes cliniques de l'agonie. Alors c'est parce qu'on a une conception très restrictive de la fin de vie qu'on voit que dans les services de soins palliatifs, ça m'est arrivé il y a 10 jours, il y a un adressage extrêmement tardif des malades qui viennent d'autres services. Il y a 10 jours, j'accueille à 11h du soir, parce que je fais mon bénévolat en soirée, à 11h du soir, un monsieur transféré d'un hôpital de la banlieue parisienne, alors que le personnel qui est là n'est que du personnel de nuit, donc en petit nombre, et on l'accueille comme on peut, et il est mort un quart d'heure après dans le couloir, n'ayant pas eu encore le temps d'être admis dans sa chambre. Pourquoi ? Parce que derrière, en amont, ça veut dire que les services hospitaliers qui l'ont envoyé considéraient qu'il n'était pas en fin de vie, et puis jusqu'au dernier moment, où là, c'est clair qu'il va mourir, et encore, il a de la chance, il n'est pas mort dans l'ambulance. Ça aurait créé un embarras supplémentaire. Donc ça, c'est le fruit d'un refus de considérer la question de la fin de vie sous l'angle symbolique et le désir de ne la considérer que sous l'angle clinique. Donc si on veut considérer la fin de vie sous l'angle symbolique, et on y vient petit à petit, je vais dire pourquoi, eh bien il faut considérer le moment où la personne elle-même subjectivement commence à se sentir en fin de vie. Elle sent qu'elle rentre dans le dernier temps de sa vie. Et donc il faut accompagner cette subjectivité, pas simplement à partir d'un diagnostic clinique. Alors on y vient pourquoi ? Parce que le travail autour du vieillissement de la population, et là, la ministre va faire demain des annonces sur la manière d'aborder la question du vieillissement autour des EHPAD. Il y a eu, il y a quelques jours, le rapport du CCNE, enfin l'avis 128 du CCNE sur ce sujet. On voit que là, on est dans un mourir lent, un long mourir. Et donc la fin de vie, elle est symbolique avant, évidemment, d'être physique. Et donc ça va nous donner l'occasion sans doute de réinclure la réflexion sur la fin de vie bien en amont du seul endroit où aujourd'hui on la pense, qui sont les services de soins palliatifs. La deuxième chose qu'est-ce qui me vient, c'est que le livre dont on parlait, que j'ai eu l'occasion de venir présenter dans une mission de Christophe en 2013, s'intitule « Vivant jusqu'à la mort ». C'est pour moi qui ai choisi le titre, comme souvent c'est l'éditeur, et ce titre m'embarrassait. Parce que je me suis dit, mais bon, je comprends qu'il soit intelligible, mais je le trouve con comme titre. Parce que si on est vivant, c'est qu'on n'est pas mort, si on est mort, c'est qu'on n'est plus vivant, donc vivant jusqu'à la mort, c'était une telle évidence ou une telle lapalissade que je trouvais ça idiot. Mais quand même, quand j'ai été amené à faire la promotion de ce livre, j'ai dû le défendre, et puis j'ai dû réfléchir un peu, et je me suis rendu compte que j'avais déjà défendu le livre en le relisant dedans, mais j'avais oublié. Et en fait, que veut dire, selon moi, ce titre ? Il veut dire qu'on peut être mort avant d'être mort. On peut être psychologiquement mort, on en avait parlé, socialement mort, peut-être spirituellement mort avant d'être mort. A contrario, on peut faire en sorte que les gens soient vivants, pleinement vivants, pas simplement physiquement, mais psychologiquement, socialement et spirituellement, avant la mort. Donc il y a une vraie réflexion sur la manière dont on prend en considération la question de la mortalité bien en amont du moment de la mort. Alors du coup, ça veut dire que, si je rebondis sur votre deuxième question, suicide assisté et mort naturelle, ça évoque autre chose. Ça évoque qu'on ne voudrait plus de ce temps long de la mort. On voudrait vivre, et puis lorsque les carottes sont cuites, pardon si je suis un peu trivial, mais on voudrait que ça aille vite. On ne voudrait plus du temps de l'agonie, pas simplement de l'agonie physique, mais de l'agonie psychique. Ce temps où la personne petit à petit s'habitue avec l'idée de sa mort et où ses proches doivent aussi s'habituer avec l'idée de cette mort. Ce temps d'élaboration, qui peut être un temps d'élaboration psychologique, affectif, spirituel. Et ça, on n'en veut plus. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a sociologiquement des mouvements qui nous invitent à considérer que la mort est un événement qui doit pouvoir être maîtrisé. Que la mort ne doit plus être simplement accueillie à son rythme, à son temps. Que l'homme moderne, c'est celui qui maîtrise tout, y compris le moment et les conditions de sa mort. Et là, on opère un glissement important, parce que du coup, ça veut dire que la mort n'est plus ce qui nous définit comme des êtres qui ne sont pas tout-puissants. Même la mort devrait succomber à notre toute maîtrise. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps que je commets un suicide, fût-il assisté, je crois maîtriser les conditions et le moment de la mort, alors qu'en fait, je donne à la mort le dernier mot plus tôt. Donc il y a un déficit de pédagogie aujourd'hui dans la société pour essayer de réfléchir, et on voit bien qu'il y a une pression sociale pour pouvoir aller dans cette maîtrise de la fin de vie. Alors on comprend très bien que certaines fins de vie soient absolument douloureuses, interminables, difficiles. Et donc il faut sans doute, c'est une partie de mon travail avec les politiques actuellement, préciser, améliorer les conditions de la fin de vie avant d'envisager de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Et ça, c'est ce qui n'est pas fait. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, les gens ne reçoivent pas assez de soins palliatifs. Il y a moins d'un Français sur deux qui en aurait besoin, qui en bénéficient réellement. Et on dit, puisque la fin de vie n'est pas de bonne qualité, si j'ose dire, alors légalisons l'euthanasie. Et il me semble que d'un point de vue logique, on devrait dire, améliorons d'abord les conditions de fin de vie et puis réfléchissons aux quelques cas pour lesquels on n'a pas de bonne solution. C'est comme si vous alliez aux urgences, il y a un rapport qui vient de sortir de Thomas Meynier sur ce sujet qui a été remis à la ministre de la Santé sur l'accueil aux urgences, et on dit bah, en France les urgences sont saturées, donc légalisons l'euthanasie. Et ce serait délirant. Si le système de santé n'arrive pas à prendre en charge correctement, dans de bonnes qualités, les gens...
C'est-à-dire que vous dites que l'euthanasie serait dans ce cas-là une solution économique, en quelque sorte.
Ça ne serait pas le motif, ça ne serait jamais le motif.
Je raccourcis.
Oui, mais vous avez tout à fait raison, ça ne sera jamais le motif mis en avant. Et tout le monde hurlera, mais c'est quand même ce qu'il y a derrière. Et parfois, ça pourrait être un motif économique avancé en sous-main par des gestionnaires ou des managers, mais parfois, ça pourrait être un motif économique avancé par la famille elle-même. Si on a un outil pour abréger la mort de grand-maman et puis peut-être récupérer au passage... quelques subsides qui permettraient d'acheter son appartement. Je suis un peu trivial, hein, je suis très provocateur, mais j'essaie de dépister les risques. Ça peut aussi arriver. On sait que les familles ne sont pas forcément toujours les mieux intentionnées les unes par rapport aux autres.
Et pour prolonger, j'aurais des questions après pour revenir. J'aimerais bien revenir sur le bail, j'aurais des questions. Juste pour prolonger ça, moi j'aimerais bien revenir sur la question du coût. Parce que je pense que l'incapacité que nous avons à penser et à faire face au coût, interroge beaucoup là-dessus, je m'explique. On sait aujourd'hui que la moitié de nos dépenses de santé de notre vie seront consommées dans les 6 derniers mois de notre vie, statistiquement.
Dans les
6 derniers mois de notre vie.
Les 6 derniers mois...
Je vous reprendrai là-dessus.
Je vais aller jusqu'au bout. Tes 6 derniers mois vont représenter sur l'ensemble de ta vie, statistiquement, en moyenne, et c'est grossi, etc., mais c'est intéressant sur la répartition dans le temps. Il se trouve que du coup, les Britanniques ont lancé, il y a maintenant, pas loin d'une dizaine d'années, une enquête, enfin une étude qui a duré de mémoire pratiquement 5 ans, qui a associé tout le monde, et qui était pour un Français absolument insupportable, qui était quelle est la valeur financière de la vie humaine. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ça pose derrière des questions de viabilité, de soutenabilité de notre système de sécurité sociale et de financement de la Sécu. Je vais vous le dire autrement. Demain, vous avez un laboratoire qui vous dit « je suis capable de prolonger la vie d'un enfant malade à l'hôpital, sauf que le traitement coûte, pour toute la vie de cet enfant, 100 000 euros par jour. Est-ce que c'est socialement acceptable? Est-ce qu'on peut le faire? Allons-y. » Et demain, il nous dit « j'en ai encore un mieux qui prolonge la vie, mais c'est 1 million d'euros par jour. » Puis 10 millions. Et jusqu'où on a la limite? Et jusqu'où est-ce qu'on considère que c'est possible? Et donc, on peut se leurrer autant qu'on veut tourner autour du pot, ça suppose, à un moment ou à un autre, de donner, pardonnez-moi le caractère choquant de la chose, une valeur financière à la vie humaine. Les Britanniques l'ont fait. C'est horriblement choquant, c'est terrible, et ils arrivent à un truc qui dit, par exemple, grosso modo, que le système de sécurité sociale britannique ne remboursera pas une dialyse pour des gens de plus de 65 ans. Vous pouvez le rembourser avec votre assurance privée, mais pas votre assurance publique, parce que le rapport économique et le gain social est tel que tout le monde y perd. Ce qui m'intéresse dans cette démarche, ce n'est pas les choix qu'ils ont faits, c'est notre incapacité sociale à poser cette question-là, et à faire face à ça. Et du coup...
Si je me permets, la question, y compris chez les Anglais, elle est biaisée dès le départ, parce qu'elle part de la conception économique du laboratoire, qui n'est pas forcément la conception économique de la société. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des choses qui... notamment certains médicaments qui leur coûtent cher, qui ne coûteraient pas cher si jamais ils acceptaient. En gros, s'ils mettent le brevet, s'ils disent « ok, moi je ne peux pas le développer, ça me coûte un million d'euros », et s'ils donnent le brevet à l'État, ça coûte... Donc il y a des... la question que j'ai eue, c'est... elle est biaisée par le prix économique du laboratoire, très libéral chez les amis anglo-saxons, et maintenant en France, malheureusement.
Mais c'est pour ça qu'intéressant dans cette étude, c'est que elle n'était pas sur le coût du traitement, elle était sur la valeur en tant que telle, est-ce que la société accepte de payer pour maintenir une vie humaine. Et du coup, moi, ça m'interroge derrière, parce que vous évoquiez le fait qu'on l'aborde sous l'angle, je reprends l'expression de la... je ne sais plus comment vous l'avez dit, de l'angle clinique. Et c'est aussi qu'on est contraint d'aborder sous cet angle-là, parce qu'il y a des enjeux de responsabilité, et que juridiquement, moi, à part l'aborder sous un angle clinique, autant je peux admettre l'angle subjectif, et je ne sais pas l'écrire en droit. Et comment est-ce que je peux juridiquement traduire à un quelconque moment cette approche subjective et cette approche de la mort spirituelle? C'est intraduisible en droit.
Je ne sais pas.
Moi, je ne sais pas faire.
D'accord. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand on ne sait pas faire.
Parce que le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire.
C'est là qu'on peut inventer. Si je reprends le processus de la loi de 2005, Leonetti, ils se sont mis autour de la table. Ils ont commencé par dire « c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Ils ont commencé par se frotter. Hein, c'est Jean Leonetti qui le raconte lui-même. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rencontrés sur leurs doutes. Ils ont glissé de leur certitude vers leurs doutes. Et en glissant vers leurs doutes, ils se sont mis à inventer un truc qui n'avait pas de précédent. Donc c'est juste une allégorie, parce que la question est plus complexe, hein, celle que vous soulevez. Alors d'abord sur les coûts, autour de la moitié des coûts qui seraient engagés autour des 6 derniers mois. C'est plutôt faux, ça a été démontré par des études canadiennes, mais c'est une affirmation qui continue à être véhiculée parce qu'elle a un certain écho, on l'entend bien. Donc prenons-la quand même, pas simplement pour sa vérité scientifique, mais pour son impact social. Il faut voir que les coûts des 6 derniers mois, ce n'est pas les coûts de la fin de vie. C'est les coûts du traitement pour éviter la fin de vie. Donc c'est la énième chimiothérapie, c'est la nouvelle molécule qui, ceci, cela. Donc la fin de vie, ce n'est pas la fin de vie qui coûte cher. C'est le vouloir éviter la fin de vie qui coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher, évidemment, d'accueillir des gens en soins palliatifs, surtout si on les accueillait 2 mois, 3 mois avant leur décès, avant leur décès prévisible, et pas 2 heures ou 3 jours. Donc on pourrait avoir un dispositif qui légitime à un moment donné l'arrêt d'une forme d'obstination déraisonnable, ça c'est prévu dans la loi, pour permettre un temps qui soit financé par la sécurité sociale, qui coûterait beaucoup moins cher que cette obstination dite déraisonnable, et qui serait justement un temps d'élaboration symbolique. Donc là où on pêche aujourd'hui, c'est dans le côté tardif de l'adressage des patients vers les soins palliatifs par non-reconnaissance de ce que sont réellement les soins palliatifs, qui sont des soins d'accompagnement et pas des soins de toute fin de vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quelle est la valeur d'un individu ? Personne ne se décrète pas en droit, ça s'apprécie subjectivement et ça s'apprécie de manière systémique. La valeur d'un individu, elle a un impact sur les proches, ça rejoindra la question du deuil. C'est-à-dire que si on ne prend pas en considération l'impact d'une fin de vie sur les proches, alors on ne prend pas en considération ce que va être la vie de celui qui survit, comment il aura été marqué par la fin de vie, est-ce que ça va venir handicaper sa manière de travailler, sa manière de vivre en société après le décès. Donc il faut essayer d'aborder ça de manière systémique. Là où on commence à évoluer, j'espère. J'ai vu Agnès Buzyn il n'y a pas si longtemps, et, parce que j'ai un mandat au sein de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et on lui dit, elle était déjà un peu vacillante sur le sujet, on lui dit, bon, vous avez compris que la T2A, la tarification à l'activité, ça a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Pourquoi ? Parce que ça pousse les gens à facturer des actes qui sont cotés, et du coup, il y a des actes qui rapportent et d'autres qui ne rapportent pas, et les soins palliatifs, ça ne rapporte pas. Donc ça, en plus, ça a un effet négatif sur les soins palliatifs, mais ça a aussi un effet négatif sur la mobilisation des professionnels qui pensent qu'ils sont réduits à des machines à faire des actes. Donc elle nous dit, ok, la T2A, on va changer tout ça. Alors elle dit, ben, on va vous proposer un truc, c'est de remplacer la T2A par la T2A. Elle nous regarde et elle nous dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors elle dit, ben, vous allez arrêter sans doute la tarification à l'activité, mais vous pouvez essayer d'inventer la tarification à l'accompagnement. Et ça, c'est différent. Parce que ça veut dire qu'il nous faut penser le patient dans un parcours, et dans un parcours plus systémique. Et là, on va commencer à pouvoir documenter le subjectif. Parce que le subjectif, scientifiquement, on sait le documenter. Qualitativement, pas quantitativement. Si vous voulez documenter le vécu subjectif d'une personne, vous êtes obligé de faire des travaux de recherche qualitatifs. Et pas de faire juste des sondages avec des croix à cocher. Et en France, on a un retard considérable en matière d'études qualitatives. Donc tant qu'on aura des politiques publiques prétendant prendre soin des gens de manière individualisé, qui s'appuie sur des études quantitatives, on aura tout faux. Or, la perspective du soin à l'avenir, c'est bien quand même du soin personnalisé, peut-être du soin génétique. Hein. Et donc, il nous faut pouvoir, si on veut aller vraiment dans ce soin personnalisé, documenter scientifiquement la valeur d'une vie. Et pas simplement la valeur que la personne donne à sa vie, mais la valeur que les autres lui donnent. Et donc, la valeur sociale d'une vie, et pas simplement la valeur économique. Et là, on a des champs de recherche qui sont encore complètement inexplorés.
Si je rejoins, est-ce que ça ne veut pas dire que La solution, c'est la création d'une filière où, à un moment donné, un individu rentrerait dans cette filière d'accompagnement, quitte à en sortir, il rentrerait précocement, c'est peut-être dur à dire, hein. Rentrerait précocement.
Oui.
Parce qu'on associe souvent en fin de vie, oui. J'allais dire aux, excusez-moi, hein, s'ils sont concernés, aux vieux qui meurent.
Oui.
Mais qui pourraient rentrer précocement sur des critères dont vous avez dit symboliques ou même de santé, quitte à ce qu'ils en sortent si jamais il y a guérison. Ce qui arrive.
Absolument.
Mais le travail aurait été fait en amont sur une filière plus longue qui permettrait de régler des questions de symbolique. Parce que je pense que les questions de santé, moi j'ai l'impression que moi elles sont réglées. Les questions symboliques, les questions de deuil, et d'autres questions sur un temps plus long.
Moi, je le crois profondément. Je pense même que si on n'aborde pas ces questions de symbolique dans la durée, alors on va tout naturellement essayer de régler le problème par de la clinique sur le court terme. Puisqu'on n'aborde pas qu'est-ce que c'est que mourir, qu'est-ce que c'est que souffrir. Est-ce qu'on a aujourd'hui le droit de dire en France qu'est-ce que c'est que souffrir ? Non. On a juste le droit de dire « souffrir est insupportable, il faut tout faire pour que ça cesse ». Voilà, ça c'est devenu une ligne de conduite, un logiciel qui nous est plaqué. Bon, moi je fais des conférences provocatrices qui s'intitulent « Souffrir aujourd'hui, à quoi bon ?» Mais je vois bien que je prends des risques en faisant ce type de conférences. Parce que très vite, je joue sur les gens rebondissent sur leur émotionnel, leur expérience, mais c'est pas grave, il faut accompagner quand même encore aujourd'hui philosophiquement, théologiquement, sociologiquement, une réflexion sur la souffrance. Mais tant qu'on fait pas ça, tant qu'on fait pas ce travail sur la souffrance, sur la mort, alors effectivement, on va se réfugier vers des réponses qui sont confortables, parce qu'elles sont maîtrisées d'un point de vue clinique, et ça va être des prescriptions, des examens complémentaires, une énième chimiothérapie. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse en amont, inscrire les gens, s'ils le souhaitent, dans une trajectoire alternative. Alors, la plupart des gens vont à l'hôpital en disant, c'est eux qui demandent l'obstination déraisonnable, en disant, hey, essayez, secouez-vous, trouvez-moi une molécule, je veux faire partie de tel protocole, y compris de, je veux bien être le cobaye de tel essai thérapeutique. Mais ceux qui ne le souhaitent pas, et la loi de 2005 et la loi de 2016, Leonetti et Klaas-Leonetti, permettent aujourd'hui de refuser tout traitement, mais pas simplement quand les carottes sont cuites. On peut refuser un traitement quand on sent que voilà, ça ne vaut pas la peine de partir dans ce parcours du combattant-là et qu'il y a un autre parcours d'accompagnement qui peut être proposé.
Et quand on n'est pas en mesure d'exprimer son consentement de façon éclairée.
Ah, la pointe éthique du moment.
Qu'est-ce...
On ne va pas l'éluder. Hein. Ça concerne un certain nombre de situations. Il y a environ 1500 patients en situation post-relationnelle aujourd'hui. Et puis, je ne compte pas les gens atteints de troubles cognitifs, maladies neurodégénératives. Voilà. Alors, ça renvoie à une autre question qui était très complexe, qui est celle de l'autonomie. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé ? Parce que même quand vous croyez avoir la maîtrise de vos neurones, vous arrivez face à des questions qui sont extrêmement dévastatrices, on vous annonce que vous avez une maladie incurable, vous n'êtes absolument pas en état de réfléchir, et ça peut durer des semaines. Donc, cliniquement, objectivement, la personne est juridiquement capable, si dans ce moment-là, elle demande à ce que, par exemple, on l'euthanasie si c'était légalisé, et qu'en 48 heures, comme le propose la proposition de loi de Jean-Louis Touraine, eh ben, on ait fait le tour de la question. Eh ben, on va l'euthanasier dans les 36 heures. Je le dis comme ça, sans esprit de polémique, mais quand même, c'est des informations. En Belgique, où l'euthanasie est légalisée, le seul cas qui a été déclaré sur 15 000 euthanasies, le seul cas qui a été déclaré à la justice, parce qu'il y a une commission dite de contrôle qui ne fait pas son boulot, mais le seul cas qui a été déclaré à la justice, c'est le cas d'une femme, Simona de Moore, qui a été euthanasiée parce qu'un mois avant, elle a perdu sa fille et qu'elle était en plein deuil. Et qu'elle a obtenu qu'un des médecins qui est membre de la commission représentant de la DMD en Belgique l'euthanasie, et elle n'avait pas parlé à sa deuxième fille. Et donc on voit que prendre des décisions dans ces moments-là, qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé ? Qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est une autre réflexion, non pas pour dire qu'on doit décider à la place des gens, mais pour dire que le consentement sur ce type de questions est forcément une co-élaboration. C'est forcément un vrai dialogue et pas une consultation avec un médecin généraliste. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Donc, ça, c'est le premier cas. On a des gens dont on dirait au quotidien que leur consentement est éclairé, sauf qu'ils vivent une épreuve qui vicie leur discernement. Mais après, il y a aussi tous ceux qui ne sont plus en état d'exprimer leur volonté. Est-ce qu'on peut décider pour eux ? Et aujourd'hui, la tendance, parce que le filtre, le logiciel, c'est celui de l'autonomie érigée comme étant la pointe de la pyramide éthique, tout devrait être soluble dans l'autonomie. Je décide, donc tu exécutes. En gros, c'est vers ça qu'on s'achemine. Eh bien, est-ce que, parce qu'une personne aurait décidé quelque chose à un moment donné, mettons qu'elle l'aurait écrit dans ses directives anticipées, on serait tenu par cette expression, alors que ça a été exprimé, les directives anticipées sont valables sans limitation de durée désormais, ça a été exprimé il y a peut-être 10 ans, puis ça a été exprimé dans un contexte, et le contexte a changé. Donc là, vous voyez que très vite, on va buter sur l'impossibilité de résoudre juridiquement la question, parce qu'on est exactement dans la question éthique. Et donc la question éthique, ça ne se résout pas par des recommandations de bonnes pratiques, ça se résout par un dialogue, par des réunions collégiales dans lesquelles, et c'est là où c'est un peu, il faut avancer, il faudrait associer l'ensemble des acteurs. J'ai beaucoup parlé de systémique, il faudrait que dans les réunions collégiales, il y ait l'ensemble des acteurs, pas simplement le médecin et les infirmières, ou même parfois les aides-soignantes. Il faudrait qu'il y ait la SH, c'est-à-dire la femme qui passe la serpillière dans la chambre, qui peut-être depuis une semaine ou peut-être depuis 4 ans parce qu'elle est en EHPAD, connaît Madame Intel qui a fait son AVC ou son coma il y a 48 heures et dont on se pose la question du maintien en vie. Il faudrait qu'il y ait des bénévoles, il faudrait qu'il y ait les représentants des grandes religions qui soient là. Il faudrait qu'en fait, petit à petit, on bascule d'un traitement médical de la fin de vie à un traitement social de la fin de vie dans lequel il y aurait une dimension médicale. Là, vous voyez qu'on bouscule les chapelles. Hein.
Et sur ce qui concerne l'autre partie du sujet, le début de vie, vous avez parlé de symbolisme, de toute puissance. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en reprenant un peu les thématiques que vous avez évoquées pour la fin ?
Sur le début de la vie, le début de la vie, c'est typiquement, là on est dans le cadre des états généraux de la bioéthique, on s'intéresse profondément à ces questions, que ce soit GPA, PMA, recherche sur les cellules souches de l'embryon. Donc là aussi, on voit que ces réflexions, qu'elles soient autour du début de la vie ou autour de la fin de vie, s'inscrivent dans un paradigme qui est un paradigme de l'homme tout-puissant du 21e siècle. Et il n'y a pas très loin derrière pour voir toute l'influence philosophique, peut-être économique, du transhumanisme. On voit que petit à petit, nous glissons vers une idée de l'homme qui, voilà, pour reprendre Harari, Homo Deus, ou d'autres, hein, beaucoup ont écrit, pas simplement des best-sellers, mais des bouquins un peu mieux documentés, je pense à Beignet, je pense à Vergely, sur le fait que vers quel... Je vais le dire autrement. Pousser à l'extrême cet ultra-désir de tout contrôler de la vie, que ce soit le début de la vie ou que ce soit la fin de vie, peut conduire à l'extrême solitude de l'être humain. Qu'est-ce qui fait que les sociétés se construisent ? C'est parce que nous avons des épreuves et que ces épreuves, nous essayons de trouver des réponses collectives. C'est la fonction des rites, notamment. C'est la fonction de la solidarité. C'est de créer du lien sur fond d'épreuve. Non pas simplement pour faire cesser l'épreuve, mais c'est que le lien s'enracine dans les épreuves. S'il n'y a plus d'épreuves, parce qu'on peut tout régler, pas simplement parce qu'on en aurait économiquement les moyens, mais parce
qu'on... Reste-t-il de l'humain ?
Qu'est reste-t-il de l'humain ? Parce que reste-t-il du lien entre les hommes ? Quel va être le lien qui se construira si... 5% ou 3% ou même 1% de la population avait accès à des technologies totalement fantastiques, que 99% n'y aurait quasiment pas accès, parce qu'en plus c'est des technologies très coûteuses, donc on aura très vite fait de dire que non, on ne peut pas faire ça pour les handicapés, sauf si c'est le fils handicapé de quelqu'un de puissant. Voyez. Qu'est-ce qui reste de la réflexion sur l'épreuve, sur une certaine forme de souffrance et donc sur une certaine forme de socialité qui se fonde sur la souffrance. Et quand je dis ça, je ne légitime pas la souffrance. Je ne suis pas doloriste. Hein. Mais je dis que les sociétés se construisent non pas sur l'excès de performance, mais se construisent sur une sensibilité à la détresse qui qui génère du lien et génère du coup une richesse sociale. Alors ça, c'est des réflexions qu'on a en ce moment et qui sont en train de prendre. Je vous prends... je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à votre question, donc avant de prendre un exemple, je vais essayer de m'assurer que j'ai bien répondu. Vous voyez, autour de la fin de vie, on fait souvent le parallèle avec... Autour de la légalisation de l'euthanasie, on fait très souvent le parallèle avec l'avortement. On relie les deux, très très souvent. C'est-à-dire que les partisans aujourd'hui d'euthanasie disent « Mais il y a eu un droit chèrement acquis en 1974 de légaliser l'avortement, c'était une conquête sociale. » Et bien de la même manière qu'on peut avoir ce droit sur la vie juste avant la naissance, on devrait avoir ce droit sur la vie juste avant la mort. Et il y a cette espèce de parallèle qui est très journalistique, mais qui est très médiatique, qui est très employé. Je n'ai pas dit que c'est le journaliste qui l'employait. Hein,
mais... À chaque rencontre... Tac. C'est sur les médias.
Ils y ont droit.
On appelle ça le point humain.
C'est vrai que je l'attendais, mais...
Alors je précise ma pensée, c'est pas les journalistes.
C'est pas les journalistes journalistiques.
C'est pas les journalistes qui le mettent en avant, mais c'est utilisé dans les médias. C'est un point, un argument médiatique.
Et puis ça résonne.
Et on l'entend tout le temps. Sauf que c'est pas du tout comparable. C'est absolument pas comparable. D'abord parce que juridiquement, si là je veux rester juridique, quand on procède à un avortement, on ne tue pas un homme, on tue un embryon. Hein, alors que si vous tuez une personne en fin de vie, il va falloir décréter qu'en fait, c'est plus un homme. Depuis qu'il a la maladie d'Alzheimer, on peut le sortir du champ humain et dire c'est plus un homme, donc on se libère de cette responsabilité. On tue ce que Tristan Engelhardt appelait des non-personnes humaines. Ils sont humains, mais ils ne sont pas humains, donc c'est moins grave de les lier. Pardon, ça fait penser quand même à des choses qu'on a entendues en Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, donc il y a derrière tout le risque de l'eugénisme. Deuxième argument, c'est quand on a légalisé l'avortement, c'était une mesure de santé publique pour protéger les femmes. Pas pour donner le droit aux femmes de disposer comme elles voulaient de leur corps, comme quand elles voulaient. C'était d'abord une mesure pour leur permettre que les avortements soient pratiqués dans des endroits sécurisés et éviter des pathologies, des accidents, des décès. Donc en réalité, le droit à l'avortement n'était pas un droit à disposer de la vie, c'était un devoir de protéger des femmes qui exercent non pas un droit, mais une liberté de ne pas vouloir garder un enfant. Si vous transposez ça à la fin de vie, ce n'est pas du tout le même débat. Même si on dit, en fin de vie, j'ai la liberté de mourir. Sauf que quand on dit j'ai la liberté de mourir, je vous renvoie à des réflexions qu'a eu Robert Badinter devant l'Assemblée nationale en disant le suicide, puisqu'on a évoqué la question du suicide, n'est pas un droit. D'ailleurs, dans le droit français, vous n'avez pas le droit au suicide. Le suicide est une liberté qui est en dehors du champ du droit. La seule chose qui est dans le droit en regard du suicide, c'est le délit de provocation au suicide. C'est la seule chose qui est réprimée. Donc, on peut dire qu'il y a une liberté au suicide, mais ce n'est pas pour autant que le droit doit entériner cette liberté. Parce que si le droit entérine cette liberté, alors la puissance publique est mise au service de pratiquer un acte qui donne la mort. Historiquement, il n'y avait que trois exceptions à l'interdit de tuer. Il y avait la peine de mort, l'acte de guerre et la légitime défense. Et chacun de ces droits de tuer n'était légitimé que par une seule chose, c'est la protection des plus faibles ou de la société. Aujourd'hui, on voudrait faire émerger un quatrième droit de tuer, même si on a aboli la peine de mort entre-temps, qui ne serait plus justifié par la protection de la société, parce que les personnes vieillissantes ne causent pas de préjudice à la société, sauf si on considère qu'elles coûtent trop cher. Ouais, on pourrait basculer là. Mais ça serait une mort pour convenance personnelle. Et on demanderait à la puissance publique de l'organiser, alors que c'est l'application d'un vœu, d'une volonté individuelle. Et donc là, on revient sur la question de la toute-maîtrise. Si on veut que notre droit entérine l'idée que l'homme donnerait des ordres à la société.
Pour juste prolonger sur cette question-là, vous évoquiez l'idée de... au travers d'une expérience compliquée, d'un obstacle, réussir à créer du lien social et par le fait de réussir à surmonter cet obstacle, réussir par le risque, etc., à créer du lien. Mais ce qui est intéressant sur les exemples que vous preniez sur l'accession à la vie, c'est que ces procès de PMA et de GPA, c'est exactement ça. Ce sont des processus qui surmontent un obstacle physiologiques, mécaniques, et qui permettent de créer du lien. Donc en quoi est-ce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la logique que vous décriviez?
En quoi ils permettent de créer du lien?
Mais ils créent bien un processus, ils surmontent bien un obstacle.
Ça oui.
En créant un lien social entre les individus qui le font et l'enfant à naître.
Je ne sais pas si je l'appellerais ça créer un lien social. Il y a un prestataire qui va mettre en place une technique, une technologie pour aider une femme ou peut-être un homme à pouvoir avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'on entend par création de lien social? Là, on est dans une prestation de service. Et la mise au service d'une personne, d'une technologie. Le lien social, que moi je constate, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait le tour de la question, c'est justement celui qui se construit quand l'individu est devenu incapable, est devenu impuissant. C'est-à-dire ne peut plus faire par lui-même, alors ça rejoint presque un peu votre sujet, mais ne demande pas à l'autre de faire à sa place, pour faire comme si finalement il était capable de faire, mais rentre dans un espace de dialogue avec l'autre sur fond de, d'une certaine manière d'assumer l'impuissance. Je ne sais pas si je suis assez clair, sans doute pas. Aujourd'hui, si on crée du lien social autour de la puissance, on reste dans des sortes de rapports d'instrumentalisation ou de domination. Ce que je constate en soins palliatifs, c'est que c'est quand la personne se révèle impuissante à changer le cours des choses, qu'elle est en situation d'appeler, d'accueillir, d'appeler à l'aide notamment, d'accueillir un autre, et d'entrer en relation autrement, parce que justement, elle ne peut plus faire comme elle le faisait avant. Et c'est ça qui est tout l'apport des soins palliatifs, c'est de faire émerger un type de relation qui est une relation sans objectif. Et si je reviens au sujet qui nous touche, la place du sens, la place de la spiritualité, c'est une relation que moi j'identifie comme étant véritablement spirituelle parce qu'elle va accueillir une certaine nouveauté, un certain souffle, elle ne sera pas exclusivement religieuse, mais c'est une relation qui va présenter un certain nombre de caractéristiques spirituelles qu'on voit classiquement dans la théologie. L'abandon, l'impuissance, l'humilité, l'attention à l'instant présent, le détachement du résultat. Je vous cite des tas de choses qui font partie de plein de religions différentes. On parle volontiers d'impuissance dans la théologie catholique, mais on parlera beaucoup plus de détachement du résultat dans le bouddhisme. Le regard, le souffle, l'écoute. Alors là, dans le judaïsme, la place de l'écoute dans le judaïsme. Et donc, faut-il que les personnes soit confronté à une forme d'impuissance, pour enfin, pardon si c'est un peu tendancieux ce que je dis, mais se déraciner des projections de toute puissance, et explorer une autre forme d'humanité, qui est celle d'une humanité qui ne se suffit pas à elle-même, et qui a besoin de l'autre, non pas pour régler son problème, mais pour être rencontré au cœur de son épreuve. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là.
Un sujet philosophique, hein.
Et je ne comprends toujours pas en quoi la PMA et la GPA ne répondent pas à ce que vous décrivez.
Parce que ça dépend comment ça va être utilisé.
Oui, oui, non, mais parce que...
Tout dépend de la manière.
Mais voilà, mais c'est pour ça que j'entends la dimension mercantile ou utilisation d'un outil, mais c'est pour ça que je pense qu'on se focalise sur un outil, qu'on ne se focalise pas sur l'utilisation de l'outil. On a exactement le même débat que on parle de la médicalisation de la fin de vie, on ne parle pas de la fin de vie, on parle de la médicalisation de la PMA ou de la GPA, on ne parle pas de l'accompagnement de ces démarches-là.
C'est pour ça que le sujet de la PMA n'est pas
un sujet technique, si j'ose dire.
Il n'est pas admis tel quel et il n'est pas non plus rejeté tel quel. C'est un sujet qui est discuté. Parce que la question, c'est essayer de comprendre comment on va accompagner la PMA. Donc, ce n'est pas un sujet de morale, c'est un sujet d'éthique. Ce n'est pas un sujet qui dit c'est bien ou c'est mal. C'est un sujet qui dit cette technique peut être mise en œuvre et avoir des effets bénéfiques pour l'individu et pour la société. Et en ça, elle peut créer du lien. Parce que ça peut créer un lien particulier avec un enfant, ça peut créer un lien particulier avec une équipe soignante, avec un voisinage, ça peut créer du lien. Mais si on en reste comme aujourd'hui, c'est vraiment la tendance à la réflexion technique et qu'on ne va pas dans la réflexion éthique, alors dans ce cas-là, ça sera mal utilisé. Je vous prends l'exemple de la loi de 2016, Claes-Leonetti, prévoit la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, n'est pas donc une euthanasie. Si vous donnez cet outil à des gens qui sont bien formés, qui pratiquent la sédation depuis des années dans des services et qui savent doser, qui savent préparer le moment où on passera à la sédation profonde et continue, bref, je vous parle de quelques professionnels de soins palliatifs qui ont de l'expérience et qui se forment, alors il y a des chances que cet outil soit utilisé à bon escient. Mais comme c'est un outil juridique, n'importe quel médecin généraliste qui ne connaît rien aux soins palliatifs, n'importe quel psychiatre qui ne connaît encore moins rien aux soins palliatifs, il y a quasiment zéro psychiatre qui s'est formé en France aux soins palliatifs. Alors, les questions existentielles sont présentes en fin de vie. Si vous donnez cet outil dans les mains de gens qui ne sont pas formés, alors dès qu'ils vont voir un petit bobo qui a l'air de résister, ils vont dire « ça me dépasse, donc ça dépasse l'autre, donc j'ai le droit de pratiquer la sédation profonde et continue maintenant jusqu'au décès ». Et donc là, il en fera un outil euthanasique déguisé.
J'avais deux questions. Une peut-être un peu provocatrice. Est-ce que la façon dont on essaie de réguler la fin de vie en France ne rappelle pas celle dont l'État a régulé la psychiatrie?
Ah.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que pour paraphraser à Rawlsers, on n'essaie pas de rendre l'autre vivant ou mort, c'est pas ce qu'on pourrait dire. Mais j'ai l'impression qu'on rentre dans deux corridors qui sont à peu près similaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une décision qui appartient à une personne, qu'elle soit médecin, qui pour être remis en cause devient compliqué. Et finalement, quand on va jusqu'au bout, on peut dire qu'il y a un mort partout, c'est-à-dire une symbolique peut-être pas fixe de côté, mais très très symbolique et parfois limite. Et une, ça c'est la première. Et la deuxième sur votre pratique, comment, vous l'avez un peu expliqué quand on parle de spiritualité, est-ce que vous voyez des différences profondes entre un non-croyant, un athée, je peux appeler ça comme vous voulez, dans ces périodes de rapport à la fin de vie, et un croyant, quelle que soit sa religion, ou est-ce que, pour paraphraser un ancien président, tout le monde en appelle à la fin en force de l'esprit ou pas?
Alors j'aime bien ce parallèle sur la fin de vie et la psychiatrie. Il y a effectivement beaucoup de points communs, alors même que, comme je viens de le dire, que les psychiatres en France ignorent les soins palliatifs. C'est-à-dire que s'ils l'ignorent, c'est qu'ils veulent ignorer les soins palliatifs, ils ne veulent pas s'en préoccuper. Il y a effectivement un parallèle parce qu'en soins palliatifs, on est souvent dans une zone grise, avec des gens qui ne sont pas morts, mais qui ne sont plus complètement vivants. Avec une zone où le discernement est altéré. En psychiatrie, il y a clairement, légalement d'ailleurs, la possibilité de donner des soins sans consentement, alors que la loi de 2005 l'interdit pour le commun des mortels, si j'ose dire. Donc il y a en psychiatrie une légitimation du pouvoir du professionnel et de son discernement. Donc on part de l'hypothèse que la faiblesse du discernement du malade atteint de troubles psychiatriques justifie, au nom d'une idée un peu ancienne, que la bonne personne qui est le médecin décide de manière bienveillante et bienfaisante pour lui. Mais ça, sociologiquement, ça a volé en éclats avec la loi de 2005, c'est-à-dire que désormais le patient a le droit de ne plus subir un traitement qu'on lui imposerait, et donc la figure d'autorité du médecin est tombée, mais c'est un mouvement sociologique large, comme est tombée la figure de l'enseignant de l'école, la figure du père de famille, la figure du flic, toutes les figures d'autorité se sont effondrées. Donc on est en train d'essayer d'inventer des moyens d'élaborer du vivre ensemble qui soient fondés sur une forme de coopération. Mais, pardon si je vais un peu loin dans mes digressions, l'esprit d'escalier, en même temps ça fait flop. Quand on fait que de la collégialité, ça fait flop. Donc on revient quand même à dire qu'il faut que la vie du patient, que le patient soit acteur de sa santé, parfois on dit même patient expert. Alors qu'est-ce que ça veut dire un patient expert quand on est atteint de maladie d'Alzheimer? Ben oui, il sait quand même des choses, il faudrait quand même accepter qu'il sait ce qu'il aime manger, ou qu'il sait ce qu'il n'aime pas comme type de manière de le toucher. Donc on est en train sociologiquement de... On a mis à terre les figures d'autorité dogmatique, magistrale qu'on avait avant. On s'est retrouvé dans un espèce de no man's land où on serait même tenté de dire que c'est le patient qui a autorité maintenant, sur les médecins. Et on voit bien que pardon, de citer des choses relativement récentes, mais en même temps, il y a un certain retour de l'autorité avec la figure de Macron, comme avec d'autres figures au niveau international. Donc, on est en train d'essayer de trouver le point d'équilibre entre un peu d'autorité, mais pas trop, et un peu de participation, mais pas trop. Donc ça, ça va nous occuper pendant, à mon avis, une bonne quinzaine d'années. Alors, sur la psychiatrie, c'est vrai que les soins palliatifs pourraient faire comme la psychiatrie, devenir une espèce de médecine d'exception, une médecine dans laquelle on ne regarderait pas trop ce qui s'y passe, parce que ça nous arrange de ne pas regarder ce qui s'y passe. Mais la psychiatrie a échoué, lamentablement, à tel point qu'aujourd'hui, les prisons sont devenues des lieux d'internement des gens qui n'ont rien à y faire. Voilà, parce qu'ils sont simplement atteints de maladies psychiatriques et qu'on ne sait pas où les mettre. Et là, c'est un mouvement assez international, parce que je rentre du Canada et la psychiatrie au Canada est aussi maltraitée qu'en France. Donc comment faire en sorte que sur ces questions qui sont des questions qui touchent aux limites du discernement humain, qui touchent aux limites de la vie humaine, qui sont donc des questions extrêmement, d'un point de vue éthique et philosophique, cruciales, on ne les laisse pas dans une zone grise. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais sinon vous y reviendrez. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose de commun à tous les gens qui finissent leur vie? Oui. Mon expérience me permet de dire oui, il y a un questionnement qui existe chez quasiment tout le monde, qui va être plus ou moins explicite selon les conditions d'accompagnement qu'on propose. C'est-à-dire que si vous arrivez, comme font beaucoup de familles, en disant « Mais non, t'es en pleine santé, tu nous enterreras tous », et puis vous retrouvez la famille dans le couloir après qui dit « Oh là là, vous avez vu dans quel état il est ?» C'est certain que vous avez interdit le dialogue. Vous avez interdit l'élaboration d'une parole ensemble. Donc il y a un questionnement, mais ce questionnement peut être très vite censuré, même au nom de bonnes intentions. De ne pas faire de peine, de ne pas mettre le doigt là où ça fait mal. L'avantage des bénévoles, que je connais bien, puisque c'est ce que je fais depuis longtemps, et puis j'en accompagne beaucoup, par la formation ou par les groupes de parole, c'est que aux bénévoles, on peut raconter des tas de trucs, y compris des grosses conneries, parce qu'ils ne font pas partie de la famille et parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc moi, j'ai des gens qui m'ont réinventé leur vie. Je vous le raconte parce que ça va changer un peu l'atmosphère. J'accompagne un monsieur qui avait une vie extraordinaire. Je vous ai déjà un peu livré la fin de l'histoire avant de raconter le début, mais c'est pas grave. Il avait une vie extraordinaire parce qu'il avait, à mes yeux, il avait voyagé partout et il avait était conférencier sur des bateaux, il avait été avec son sac à dos au fin fond de la Mongolie et de la Cordillère des Andes. Bref, c'était Pierre Loti et Joseph Kessel dans le même bonhomme. Et un peu d'Alexandra David-Nil aussi. Bon, il y avait un peu tout ça. Et ce monsieur, semaine après semaine, eh ben, il me raconte, et moi c'est un régal de venir passer deux heures à écouter ce que me raconte ce monsieur. Et un soir, je sors de sa chambre et je rencontre un jeune homme qui se dirige vers moi, qui me regarde, qui me dit « Vous êtes qui ?» Ben, je suis bénévole, ah, vous êtes le bénévole. J'aime bien aller voir votre père, on a de bons échanges, il me raconte sa vie, et puis vraiment, enfin, on n'en rencontre pas tout le temps des gens comme ça qui ont eu ce type de vie-là, et puis il en a vu du pays, puis il en a vu des choses, il a été témoin, puis je commence à en rajouter, quoi. Je me laisse emporter par ma fougue, et puis au fur et à mesure, je vois le jeune gars qui me regarde, qui croit un peu, quoi. Puis il m'interrompt, il me dit, mais de qui vous parlez? Mon père, il n'a jamais quitté la Garenne-Colombe. Ah ouais, quand même. Alors l'histoire s'est hélas mal finie, c'est que le fils aussitôt est rentré dans la chambre en disant « Mais monsieur, papa, qu'est-ce que tu racontes au monsieur ?» Et là, terminé. Là. Donc là, ma connerie à moi, c'est d'avoir trahi une forme de confidence, mais voilà, on apprend de ses erreurs, et là, j'ai bien appris de mes erreurs, parce que cette relation avec ce monsieur a été définitivement altérée. Mais tout ça pour dire qu'il pouvait me parler à moi, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'enjeu, il pouvait me raconter sa vie. Et donc, un peu comme il le ferait avec ses propres rêves, il élaborait aussi une réflexion sur le sens de sa vie. Et cette réflexion était libre parce qu'il pouvait rêver sa vie. Et il pouvait sortir du personnage qu'il avait été. Et il pouvait imaginer ce qu'il aurait aimé être. Et c'est émouvant d'accompagner cette gestation, même si elle est un peu...
Merci, si on peut laisser la parole à la camarade. Comment traitez-vous le cas particulier des enfants?
Alors, je vais quand même terminer sur la deuxième question. Pardon si mes réponses sont un peu longues. Ce que je vois de commun, je vois des religieux qui perdent la foi. Je vois des non-religieux qui la trouvent. j'en vois qui était athée, qui continue à être athée, j'en vois qui était religieux, qui ne l'était pas, j'en vois qui se convertissent à autre chose, il y a tout. Parce que, comme le disait Michel de Muzan, qui était psychanalyste dans les années 80, le moment de la fin de vie, disait-il, c'est le moment où l'être humain tente, une dernière fois, de se mettre au monde avant de disparaître. Et donc c'est une vraie tentative. Il y a une vraie maïeutique derrière, et elle peut être accompagnée. Il y a une vraie naissance qui peut être accompagnée par un travail de maïeutique. Et donc je pense que l'accompagnement, c'est ce travail de maïeutique. D'ailleurs, il ne faudrait pas le réduire à la toute fin de vie, parce qu'on peut s'accompagner, et on aurait avantage à ne pas aborder ces questions qu'en toute fin de vie. Donc, ce que je vois chez les gens que j'accompagne, c'est un cheminement, des errements, des volte-face, mais qui peuvent être vécues parce qu'elles sont légitimées par celui qui accompagne. Et comme je vous l'ai dit, si on sent sur la parole, on ne peut pas accompagner. Donc il y a un travail sur l'écoute qui doit être fait et qui est à la portée de tout le monde, qui n'est pas l'apanage de spécialistes. Parce qu'on n'écoute pas de manière comme un psychologue écoute, on écoute comme un être humain écoute. Alors les questions que je vois et qui sont finalement toujours les mêmes, même quand elles ne sont pas exprimées en tant que telles, après m'avoir dit « mais ma vie était super » ou au contraire « ma vie c'était de la merde », après m'avoir dit « j'ai de beaux enfants, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison » ou au contraire « j'ai tout échoué, j'ai tout raté », après m'avoir dit « finalement j'ai eu une petite vie rangée, médiocre » ou au contraire « j'ai une vie exaltante », on voit tous les cas de figure, il y a un resserrement de la question qui se fait. Et au final, c'est un peu toujours la même question qui est posée, c'est « est-ce que j'ai été aimé ?» Alors je vois la question de l'amour. Est-ce que j'ai été aimé? Est-ce que dans cette vie, je peux dire avec mes tripes que quelqu'un m'a aimé? C'est peut-être pas papa, c'est peut-être pas maman, c'est peut-être pas ma femme, c'est peut-être un inconnu, c'est peut-être ma maîtresse, c'est peut-être mes enfants, ou c'est peut-être aucun de tout ça. Mais est-ce que j'ai été aimé? Et quand les gens peuvent répondre oui, au fond d'eux-mêmes à cette question, alors il y a quelque chose qui s'apaise. Parce que cette vie n'a pas été vaine. Sauf que juste après, il y a une autre question qui vient et qui est encore plus déchirante. C'est est-ce que j'ai su aimer? Est-ce que j'ai su faire de ma vie? Est-ce que j'ai su mettre ma vie au service de l'acte d'aimer? Et là, la personne est sévère avec elle-même très souvent. Autant est-ce que j'ai été aimé, elle peut trouver des circonstances atténuantes. Mais autant quand est-ce que j'ai su aimer, elle est très souvent extrêmement sévère avec elle-même. Et donc c'est ces deux questions-là au bout du compte, donc ça répond peut-être à votre question, est-ce que c'est un peu pareil pour tout le monde? Oui sur le fond et non sur la forme. Alors la question sur les enfants, c'était quoi votre question sur les enfants? Comment on fait avec les enfants?
C'est...
Pour accompagner la fin de vie d'enfant?
Oui, je pense que le rapport est différent avec un adulte qui a une vie.
C'est fou, mais c'est beaucoup plus simple avec des enfants. C'est beaucoup plus compliqué avec leurs parents.
Ça fait une super transition parce que je voulais revenir sur le deuil. Oui, il y avait une question, vous l'avez évoquée rapidement, sur laquelle je vais revenir, c'est la question de la publicité du deuil. Je suis extrêmement étonné de l'incapacité que nous avons à organiser la publicité. Alors, vous évoquez le fait qu'historiquement elle était organisée. Alors, je prends cet exemple lorsque j'en parle, parce que je le trouve intéressant, sur la voilette des femmes qui manifestaient une forme de deuil. Et qui pour moi était non pas une publicité du deuil, mais qui était la manifestation de l'incapacité de la personne à cette étape-là de renouer les relations sociales ou de renouer une relation sociale telle qu'elle était précédemment au deuil, puisqu'elle n'avait pas fait son travail intime. Et du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, notre société peut organiser cette manifestation publique qui est une transition, me semble-t-il, nécessaire pour que la transition intime puisse se passer. Dit autrement, où sont les espaces, en dehors des lieux de culte, où l'on peut organiser cette publicité-là?
Alors, je vais répondre à votre question, je complète sur un point pour les enfants. Ce qui fait la différence entre la facilité, entre guillemets, d'accompagner des enfants dans leur fin de vie et la complexité d'accompagner les adultes, c'est que l'enfant fait beaucoup plus vite que l'adulte deuil des projets. Parce que l'enfant a une facilité naturelle à être sur l'instant présent. Donc quand on est avec lui dans l'instant présent, et si ça vous intéresse, allez voir, si ce n'est pas fait, le documentaire de Anne Dauphine Julien, Élie Mistral gagnant, ou allez lire les livres d'Anne Dauphine Julien, mais elle est un peu la figure emblématique sur cette question-là aujourd'hui, mais elle n'est pas la seule. Il y a une attention au présent que les enfants réclament de nous et qui devient une vraie chance parce que nous, en tant qu'adultes, ça nous décentre de ce qui nous met dans la difficulté, c'est-à-dire faire le deuil d'un projet. Voilà. Et c'est ça qui fait souffrir les parents. C'est qu'il y a une vie qui va s'éteindre et qui n'a pas été au bout de ce qui... Et donc il y a plein de choses qui ne seront pas vécues, et c'est injuste et c'est trop tôt. Mais les enfants ont très souvent cette capacité à accompagner leurs parents dans ce travail de deuil qui est un pré-deuil, ce qu'on appelle déjà un deuil blanc d'une certaine manière. C'est une expression qu'on utilise plutôt pour les maladies d'Alzheimer, mais qu'on peut utiliser pour les enfants. Donc ce que Nicole Aubert, la sociologue, appelle le rapatriement dans le présent, c'est intéressant comme expression. Cette convocation à investir l'instant présent plus que le passé ou l'avenir, sans être pour autant dans l'immédiateté qui est une forme de pathologie du présent. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, participe d'une respiritualisation du monde, c'est cette invitation à réinvestir l'instant présent et que beaucoup, au travers de la méditation pleine conscience, au travers du développement du bouddhisme, développent, transmettent aujourd'hui. Sur le deuil, la visibilité et la publicité du deuil, c'est intéressant de reprendre ce terme de publicité. Oui, le deuil, c'est pas qu'un phénomène individuel, c'est un phénomène social. Et on en a fait un phénomène strictement individuel. Comme la spiritualité était historiquement un phénomène social, et on en a fait un phénomène strictement individuel. Donc il y a un malaise terrible à l'égard de ces questions, que ce soit la spiritualité, que ce soit la mort, que ce soit le deuil. Donc il y avait des signes qui étaient en fait des signes qui indiquaient aux gens qu'il fallait se montrer respectueux vis-à-vis de la personne endeuillée. Respectueux en n'allant pas la provoquer, et en lui rendant visite, en veillant à ce qu'elle soit encore inscrite dans l'espace collectif. Or, en privatisant le deuil, on a désinscrit la personne qui vit le deuil de l'espace collectif et on l'a pathologisé. On a considéré que le deuil était une pathologie. On parlait des psychiatres, le manuel de psychiatrie américain, le DSM-5, édicte que, passé 6 mois, si la personne présente encore un certain nombre de symptômes complexes, il faut considérer que son deuil est pathologique et donc le médicaliser. Passé 6 mois. C'est le manuel de référence au niveau psychiatrique international. L'intention était bonne, c'était de dire ne passez pas à côté d'un deuil pathologique. Mais l'application de cette norme est devenue totalement perverse parce qu'on s'est dit oh, vous pleurez encore au bout de 6 mois, c'est pas normal. Vous devriez au bout de 3 mois déjà pouvoir reprendre votre activité sociale et professionnelle. Et là on revoit l'impact d'une société de la performance, d'une société de l'individu qui voudrait tout maîtriser, y compris le deuil, au point que l'expression travail de deuil a été pervertie puisqu'on dit qu'il faut faire son deuil. Comme si, allez, j'ai une demi-heure, je vais faire mon deuil, par petits bouts, comme on fait ses devoirs, en rentrant de l'école. Alors que l'expression « travail de deuil » qu'on doit à Michel Anus et à Michel de Musan, c'est que le deuil nous travaille, selon une temporalité que nous ne maîtrisons pas, selon des modalités que nous ne maîtrisons pas. Donc dans le deuil, il nous faut prendre le risque de nous laisser faire par le deuil. Et c'est la clé pour assumer le deuil, plutôt que de le nier, de le mettre sous le verrou. Donc tant qu'on ne réinvente pas une certaine forme de socialité ou de publicité autour du deuil, on va contribuer à une pathologisation du deuil par refoulement, par déni social. Au point que ça a changé avec la loi de 2016... de Michel Delaunay, avant les jours de congé auxquels on avait droit officiellement en cas de deuil, c'était de 1 jour quand c'était un proche et 2 jours quand c'était un enfant. C'est-à-dire moins que ce à quoi on avait droit quand on se mariait ou quand on avait la naissance d'un enfant. Et Michel Delaunay l'a étendu à 5 jours pour le décès d'un enfant. Donc il y a une modeste revalorisation du deuil dans la temporalité nécessaire, même si 5 jours, c'est évidemment rien du tout. Donc, quand on cache des choses, la population qui est consciente réinvente autre chose. Et donc, on voit des formes de réinvention de rituels autour du deuil, mais qui ne sont pas des formes encadrées, qui sont plutôt des formes sauvages, et on voit ça chez les jeunes, qui continuent à honorer la mémoire, mais en groupe, dans leur tribu, comme c'est l'expression de François de Singly pour caractériser des groupes de jeunes plurimorphes. Hein. Donc, il y a des tas d'inventions de rituels, sauf qu'un rituel, c'est pas un petit hommage fait comme ci, comme ça, bricolé, parce qu'on a été prendre trois bougies et qu'on se joue un morceau de musique préféré. Historiquement, un rituel, c'est un langage de la société. Et ça s'enracine dans une profondeur d'histoire. Et c'est ça qu'on a perdu. Donc, on ne sait plus aujourd'hui quels sont les rituels autour de la mort. Très, très peu. Il y a encore, évidemment, dans l'islam, à condition qu'il soit pratiqué, dans le judaïsme, à condition qu'il soit pratiqué, parce que même en Europe, on assiste à une sécularisation de l'islam et du judaïsme. Mais il y a encore là, encore une certaine connaissance des rituels autour de la mort. Mais le deuil, qui était vraiment la manière de manifester, il y avait en droit le délai de viduité, c'est-à-dire l'interdiction de se remarier pendant un délai d'au moins d'un an, qui valait pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'était pas juste pour s'assurer que l'enfant qui naîtrait ne serait pas le produit d'un homme de passage. Donc il y avait une organisation sociale autour du deuil, et elle a volé en éclats. Et elle se réinvente de manière sauvage aujourd'hui, mais en ayant perdu les clés presque pédagogiques et presque sociales des rites funéraires autour du deuil. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne suis pas étonné qu'une femme qui est en deuil demande l'euthanasie en Belgique, parce qu'on ne lui apprend pas que cette souffrance est traversable. Et donc pour elle, elle est au summum de la souffrance. On comprend qu'elle ne puisse pas imaginer continuer à vivre. Alors les psychologues ou les psychiatres, Christophe Fauré notamment, se sont bien emparés de ce sujet, mais ça reste sur des prises en charge privées et non pas sur des légitimations publiques. Il n'y a donc toujours pas de légitimation publique du deuil. Et je vous dis, l'enquête que j'ai faite, c'est quand même troublant. Avec le CREDOC, on a souhaité faire cette enquête, un panel de 3000 personnes plus 30 entretiens qualitatifs. Faire du quantitatif sans du qualitatif, c'est bidon. Et ben, c'est la première enquête européenne, je ne l'ai pas encore publiée, parce que je n'ai pas le temps de rédiger l'article, mais c'est la première enquête européenne qui prend en compte l'ensemble des conséquences du deuil. Qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que, finalement, bien sûr, il y a des conséquences psychologiques, ça, elles sont documentées. Mais il y a des conséquences physiologiques. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui développent des symptômes qu'ils n'avaient pas avant ou qui sont dans des recrudescences de maladies. Il y a des symptômes sociaux, des gens qui savent foutre chez eux, qui sont en état de mort sociale, des gens qui sont incapables de retomber amoureux parce qu'ils ont perdu l'être aimé, qui doivent déménager parce qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux, qui doivent trouver un boulot parce que c'est le mari qui est décédé et que la femme n'a jamais travaillé. Vous voyez ? Qui ont des problèmes de voisinage, qui ont des problèmes de bouleversement des convictions, qui peuvent devenir fous, voire le surnaturel partout. Et tout ça, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire que notre système de santé est construit non pas sur la santé globale, si je reboucle avec le sujet de tout à l'heure, mais sur les aspects strictement médicaux, éventuellement psychiatriques de la santé. Point.
Oui, je reviens peut-être sur une de vos expressions quand vous avez dit que le soignant, à juste titre, hein, le soignant est souvent cantonné aux soins du corps. Premièrement, il n'a plus le temps, il n'a plus le temps de faire un minimum d'accompagnement.
Oui.
Et puis deuxièmement, il n'est pas formé.
Oui.
Moi, j'ai assisté à des formations internes au niveau hospitalier pour les soins palliatifs. Bon, c'est vrai que ça tourne autour des traitements, mais on n'aborde absolument pas la question de l'accompagnement. Et les seules questions que certains osent poser, c'est sur les rites mortuaires, mais sur les formes. Hein. Voilà. Voilà, sur les rites, mais il n'y a pas du tout de formation. Et c'est laissé, hélas, aux spécialistes que vous êtes ou que nous sommes, quoi. Et c'est dommage, parce que le travail est immense. Et puis je confirme ce que vous dites puisque moi je vais aussi régulièrement en soins palliatifs à Casanova, c'est vrai que les gens arrivent souvent à l'extrémité à tel point qu'il y a plus de la moitié des gens pour lesquels on ne peut pas faire d'accompagnement, c'est en tout cas, hein, ils sont plus conscients.
et que toutes les semaines, la moitié des personnes, bon, sur les 10-11 lits, la moitié partent. Quoi. Donc c'est bien dommage qu'on n'ait pas non plus, en ce qui concerne le temps d'un accompagnement. C'est souvent vraiment à l'extrémité.
Ça rejoint.
Non, quand ils partent, je parle en règle générale. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont, comment dirais-je, réorientés dans d'autres services. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine quelquefois que soins palliatifs, c'est la fin. Et on a l'expérience de gens qui sont là, alors soit parce qu'il y a de la place, et ils ne sont pas du tout. Voilà. Et puis d'autres qui ont un rebond, hein,
ça arrive.
Voilà, et qui sont donc c'est pas systématiquement la fin de vie. Hein.
On a quasiment 15% des patients qui sortent des unités de soins palliatifs. Ce n'est pas négligeable. Je rebondis sur la question effectivement de la formation. Il n'y a pas de formation à l'accompagnement, donc l'idée c'est de substituer la T2A par la T2A. C'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut réhabiliter l'accompagnement. C'est donc aussi le temps, mais ce n'est pas que le temps. C'est la qualité d'attention dans le temps donné qu'il faut pouvoir réhabiliter. Si vous avez 5 minutes, faire en sorte que ces 5 minutes soient habitées. Si vous avez 30 minutes, tant mieux, mais si c'est 30 minutes dans lesquelles vous n'êtes pas là, ce n'est pas la peine. Si vous avez l'esprit ailleurs ou vous n'êtes pas à l'écoute, c'est 30 minutes qui ne sont pas mises au service de l'accompagnement. Donc, comment, dans une politique publique, être capable de réhabiliter la relation d'accompagnement et repenser le rapport au temps ? On va y venir, parce que c'est les professionnels eux-mêmes qui disent qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ne supportent plus, notamment dans les EHPAD, de faire ce métier à la chaîne. Donc quand la souffrance des professionnels va percuter la puissance publique au point que la justice pourra même mettre en accusation des hôpitaux ou peut-être derrière un ministère pour maltraitance de ses propres personnels, là ça fera bouger les frontières. C'est marrant, quand les patients souffrent, ça ne fait pas tellement bouger le curseur, quand c'est les professionnels qui souffrent, là ça fait bouger le curseur. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un des directeurs généraux d'Orange qui me dit on n'en peut plus. Ça fait 10 ans qu'en matière de souffrance au travail, on a une politique hyper vertueuse. On est encore aujourd'hui pollué par l'image de Orange égale entreprise maltraitante. Donc ça se fait cash hein, et ça se fait longtemps. Alors, la formation à l'accompagnement, oui, certainement. Ça veut dire que derrière, ça veut pouvoir donner non seulement une formation éthique, parce qu'il y a une éthique de l'accompagnement, quelle posture intérieure les gens qui prétendent l'accompagner doivent-ils veiller à avoir. Donc on voit qu'on est sur un terrain où l'accompagnement, c'est où l'outil de l'accompagnement, c'est l'accompagnant. Il est l'outil de l'accompagnement. Ce n'est pas donc des techniques d'accompagnement, c'est la personne qui accompagne. Ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir documenter les choses en termes de rites, pour comprendre le système symbolique ou spirituel de l'autre. Or, aujourd'hui, la formation sur les rites est envisagée uniquement sous l'angle de la sécurité. Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Qu'est-ce que je... Attention, ça c'est sacré chez lui, donc ça je ne dois pas le faire. Ou attention, ça c'est sacré, entre guillemets, dans la République, donc ça je ne dois pas le faire. Et donc on n'est pas sur un désir d'aller à la rencontre de la culture de l'autre, pas du tout. C'est là où je parle de laïcité PPCM. On est sur une obligation d'aller à la rencontre de l'autre en prenant le moins de risques possible. Pas du tout la même chose. Donc parce l'accompagnement n'est pas
le même. Cash, tout simplement. Parce que le moindre dérapage se paye cash.
Oui. Mais parce que nos sociétés, on a beau jeu d'incriminer les médecins ou d'incriminer la société, c'est nous. Donc c'est, vous voyez que derrière ce qu'on évoque, c'est une révolution, une rupture anthropologique. C'est Michel Serres, l'académicien, qui en parle en ces termes. Pour que nous réhabilitions le rapport à la vulnérabilité en chacun d'entre nous, de sorte que notre rapport à la personne vulnérable soit pensé et vécu différemment derrière. Mais si nous restons d'abord sur des injonctions de sécurité, que tous nos comportements collectifs sont d'abord placés sous le prisme de la sécurité, alors nous n'allons pas nous rencontrer.
Nous allons nous éviter. On est sur la précaution.
Oui.
Si ce n'était que la sécurité, à la limite, ça pourrait s'entendre. Oui. Et là, la société, elle a fait un pas en arrière, en avant, comme vous
voulez. Oui, là, maintenant, on ne fait plus rien parce que...
On ne fait plus rien parce qu'il y a peut-être un risque de... Peut-être de risque.
Alors,
quand vous ne faites plus, parce qu'il y a un risque de risque de risque, à un moment donné...
Souvenez des Shadocks.
Oui,
c'est Shadocks. Quand même. Moi, c'est mes philosophes préférés. Je les invoque tout le temps parce qu'ils avaient raison 40 ans avant tout le monde. Hein, il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose et risquer qu'il ne se passe rien, plutôt que de ne rien faire et risquer qu'il se passe quelque chose de pire. Voilà. On est là-dedans, hein. Le principe de précaution, c'est vraiment ça. Surtout, on ne fait rien, résultat, ce qui arrive est pire. Ça fait peur, hein.
Comment ?
Ça fait peur, non ?
Ça peut.
Non, non, c'est l'interprétation du chacotisme, c'est pas idée de chacun.
Je vais, pourquoi je dis ça fait peur ? C'est parce que je voudrais boucler quand même là-dessus, puis je vois que le temps, effectivement, s'est écoulé. Il y a quelque chose qui change, qui est en train de changer. C'est-à-dire que le volume de personnes âgées, le volume des personnes handicapées, l'impact de la fin de vie, 600 000 personnes qui décèdent chaque année, quand on aura enfin pris conscience du nombre de personnes endeuillées qu'il y a chaque année, à votre avis, il y en a combien ? C'est 600 000 personnes qui meurent chaque année, il y a bien
2,4
millions. Moi, je les estime entre chaque année 2,5 millions et 4 millions de personnes nouvellement endeuillées, potentiellement très affectées par le deuil. Or, comme un deuil, ça dure un peu plus d'un an.
Non,
mais dis-moi, j'ai 6 mois. Oui, 6 mois.
C'est pour les Américains. Bon,
les chiffres à la hache que j'ai.
Ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui font pousser ça plus vite.
Les chiffres à l'âge que j'ai, c'est qu'on aurait en permanence dans la société française, enfin c'est les chiffres de l'étude, hein, 42% des gens, des adultes qui se disent en deuil.
42%.
42%.
Oui, mais c'est vrai, c'est vraisemblable.
Donc ça veut dire que nous sommes à l'aube de devoir prendre conscience collectivement que nous sommes tous vulnérables et que nos paradigmes autour de la toute-puissance sont non seulement obsolètes, mais délétères, qui vont nous conduire dans le mur. Alors peut-être que tout le monde n'a pas pris encore complètement conscience de ça, mais oui. Ne serait-ce que par l'effet volume, on ne va pas quand même euthanasier toutes les personnes âgées.
On va les euthanasier avant qu'elles soient...
Avant qu'elles soient âgées.
Oui, c'est un superbe, court-métrage de... C'est appelé le bal des aînés. Donc, c'est une société comme ça qui a trop de vieux. Ils sont tirés au sort. Ils vont danser dans une belle fête. Il y a des numéros de tirés au sort. Il y a des tireurs d'élite autour qui... On dégomme tous les numéros.
C'est superbe.
C'est une allégorie de la société.
Ouais, c'est superbe. C'est... Voilà une solution effective.
Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que la question du nombre, la question statistique, sur ce problème comme sur d'autres, est en train de fracasser notre société. Que ce soit sur.
Le nombre des personnes âgées, le nombre des professionnels de santé en souffrance, revenons-y, le nombre des aidants, 11 millions d'aidants en France. Le nombre des personnes qui meurent, le nombre des personnes endeuillées, tout ça nous oblige à regarder, si on veut enlever nos œillères, la réalité de notre société, c'est que nous sommes une société qui doit apprendre à construire quelque chose à partir de la vulnérabilité et non pas sans arrêt essayer de lutter contre les vulnérabilités.
Et est-ce qu'il y a des contraintes ? On parle souvent des sociétés japonaises, où on entend souvent cette phrase où on dit en gros... la civilisation française, en tout cas ici, les vieux on s'en fout, on les accompagne pas, au Japon ils vivent avec, bon, il y a eu la balade de Narayama qui était une fille autrefois.
Oui, qui a daté parce que le vice-premier ministre du Japon a dit qu'il aurait honte, le vice-premier ministre, il a déclaré il y a 4 ans qu'il aurait honte de peser en étant vieillissant sur une société et qu'il aimerait que cette société puisse donner la dignité aux vieux de mourir avant d'être vieux. Même au Japon. Ça fait un tollé. Hein. Ça fait un tollé là-bas. Ça a été un scandale parce que c'est la société la plus vieille.
Bien que le suicide soit pas un tabou.
Non, non, mais c'est pas le suicide par désespoir. Non. C'est le suicide par.
Il y a un livre magnifique qui s'appelle La mort volontaire au Japon de Maurice Marier. Si tu es intéressé à ça, qui détermine les 247 sortes de suicides. De suicide et de cause de suicide. Y compris quand tu n'es pas d'accord, mais tu es obligé de te suicider.
Ouais.
Donc tu changes la couleur de ton avis. Alors,
terminer sur une note un peu positive ou confiante. On me taxe souvent d'être à la fois assez pessimiste et en même temps totalement naïf. Donc là, je vais plutôt aller du côté du naïf. Il y a quand même quelques éléments qui me semblent un peu objectifs, comme le nombre. Des dents, le nombre de personnes âgées, le nombre de handicapés, enfin tout ça, le volume, le nombre, plus des éléments historiques qui ne manqueront pas de revenir dès qu'on flirtera avec l'eugénisme. J'espère qu'on aura quand même la mémoire longue et pas la mémoire courte.
En ce moment, je vois que, ça a été dit par Xavier en introduction, que la thématique de la fragilité était très en vogue il y a 6-7 ans et qu'aujourd'hui c'est celle de la vulnérabilité. Ce n'est pas tout à fait le même périmètre, la fragilité et la vulnérabilité. Et on voit, je viens avec deux amis créer un cercle qui s'appelle Vulnérabilité et Société, dans lequel on veut mettre en lien des acteurs associatifs. Par exemple, on a été rejoint par l'Arche, les petits frères des pauvres, ainsi de suite. Des entreprises, y compris les entreprises qui n'ont pas la réputation d'être tendres, Pfizer ou d'autres, des pouvoirs publics, bref, mettre autour de la table plein d'acteurs pour dire quelle richesse, non pas pour faire de la philosophie, mais pour dire témoigner de la richesse que vous avez su tirer de la vulnérabilité dans certaines circonstances. En quoi la vulnérabilité des gens a créé de la richesse? Par exemple, en quoi avoir un aidant salarié dans sa entreprise a moins été un frein qu'au contraire un levier de créativité, de lien social? En quoi l'aidant a acquis des compétences qu'il a pu transposer, en quoi il a pu prendre suffisamment de recul et devenir innovant par la suite quand il est revenu? Voilà, par exemple. En quoi, si on prend un pied sur l'arche, être une personne handicapée, c'est une source de richesse pour ceux qui l'accompagnent, qui découvrent des réalités de la vie, puis ensuite agissent dans le monde différemment. Donc on est en train d'essayer de faire monter en puissance ces témoignages, parce que nous croyons qu'on ne changera pas le monde avec des idées, mais avec des témoignages documentés, dont on aura prouvé, dont on aura prouvé les résultats. Et donc, on est très étonné de voir l'écho très positif que cette initiative recèle. Non pas qu'elle est pionnière, mais elle tombe à un moment donné où ça devient audible. Où les pouvoirs publics, où les chefs d'entreprise, que ce soit médiatisé Emmanuel Faber ou d'autres, quand on voit, ça rejoint les approches syndicales, la tentation de redéfinir ce que c'est que la société, l'entreprise, aujourd'hui. Hein, j'en parle d'Emmanuel Faber, dedans, Nicole Botta notamment. Bon. Quand on voit que nos anciennes recettes, on est conscient que nos anciennes recettes, que nos anciens paradigmes ne peuvent pas nous conduire à des solutions innovantes. Et donc, quelque chose, peut-être que l'écologie est passée par là et nous a fait prendre conscience de notre vulnérabilité absolue, que grâce à l'écologie, on est obligé de repenser quand même la question de la mort, d'un point de vue physique et d'un point de vue symbolique, la question de notre co-responsabilité. Bref, il y a plein de choses qui sont en train de bousculer, et donc c'est ce qui me fait dire que même si on légalisera peut-être l'euthanasie, et je pense que ça serait une très grave erreur d'un point de vue sociétal, mais au-delà de cette légalisation de l'euthanasie ou au-delà de certaines avancées, dit-on, sur les lois de bioéthique, je pense que l'humanité n'est pas suicidaire, que certains individus peuvent l'être, mais pas l'humanité. Et qu'à un moment donné, il faut qu'elle se confronte à la réalité de la mort. Comme quand on est en plein processus dépressif, il faut qu'on se confronte à la réalité d'en crever ou de choisir de vivre. Et c'est ça le travail de deuil. C'est que dans le travail de deuil, il y a la réalité. La réalité, ce n'est pas une hypothèse de crever de cette souffrance, ou au contraire, à un moment donné, de se relever et pouvoir vivre, non pas malgré l'absence, mais sans l'autre et avec soi, ou vivre autrement avec l'autre. Donc je suis positif, pas forcément à très court terme, mais sur le long terme, je suis très très positif, parce que je ne crois pas que nous suicider collectivement, on n'est pas des lemmings.
Donc ce que vous disiez tout à l'heure, le réflexe, enfin le constat ça me dépasse, qui est un constat de fragilité, mais la réponse de dire donc ça dépasse l'autre,
ouais,
et donc de tuer ça, vous pensez que ce ne sera pas le réflexe qui va primer? Ça peut être,
non.
Que ce sera plutôt ça me dépasse, donc j'en parle et on...
Parce que ça me dépasse, je suis obligé de coopérer.
Ouais.
Yves Coppens s'amuse de temps en temps à rappeler qu'il y a eu l'Australopithecus robustus dans l'histoire il y a 400 000 ans. Il y avait l'Australopithecus robustus, on l'imagine assez bien charpenté, qui était monoalimentation, qui était sédentaire parce qu'il comptait sur ses forces, il se sentait fort. Et en même temps cohabitait l'Australopithecus gracilis, qui lui était, enfin, si on est darwinien comme on l'interprète à tort souvent, on croit que c'est le plus fort qui gagne.
Sauf que dans l'histoire de l'évolution, c'est Gracile qui a gagné parce qu'il a été amené à coopérer, parce qu'il avait conscience de sa vulnérabilité. Et donc il s'est montré plus inventif. Et donc il a été plus capable d'absorber les changements. Donc partons de cette lecture-là. Je termine sur un point. J'anime des réseaux, des clubs de chefs d'entreprise qui essayent de travailler au sens de l'engagement dans l'entreprise aujourd'hui. Cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une société, qu'est-ce que c'est de diriger des êtres humains. Et je mesure à quel point, de plus en plus, c'est ça là-dessus que je les fais travailler, ils consentent à témoigner de leur propre vulnérabilité de chef d'entreprise. À quel point leur divorce, à quel point leur faillite, à quel point un licenciement, à quel point tout ça les a foutus par terre à un moment donné, mais ils n'étaient pas tout seuls. Quelqu'un est venu, non pas leur tendre la main pour les relever, mais les légitimer dans ce qu'ils vivaient. Et à quel point cette traversée leur a donné la capacité d'être derrière un chef d'entreprise différent. Donc même là où on se dirait, s'il y a bien un endroit où on est dans la culture de la performance, ce serait l'entreprise, ben même là on voit que l'édifice... Il y a des brèches dans l'ancien édifice, et comme dirait, je termine là-dessus, Gabriel Ringlet, dans un très beau livre qu'il a écrit, qui s'intitule « Ceci est ton corps », il dit « Au fond du gouffre, au fond du gouffre, une crevasse, juste assez pour laisser passer un souffle. » J'aime bien cette manière de voir...
Pas seulement à l'homme positif,
finissons sur cette pneuma, alors.
Ouais, pneuma. Précisément. Merci à vous. Merci.